Bien, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Nous sommes bien heureux avec Muriel d'être ici. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu à Antony. Alors, je vous propose de lire une parabole. Et on va aller dans Matthieu 25. Et avant, je vais prier. Voilà, Seigneur, nous te remercions de ce temps de culte ensemble. Et évidemment, nous avons beaucoup de sujets de reconnaissance pour ce si grand salut, pour cette espérance, pour ce qui est devant nous, et en même temps ta présence dans notre quotidien, aussi difficile peut-il être, et nous pensons encore à nos frères et sœurs qui sont dans le deuil. Mais voilà, nous te remercions aussi pour ta parole, qui est tellement porteuse d'espérance et d'encouragement, et que dans ces temps aussi de lecture, nous puissions être fortifiés par toi, Seigneur. Amen.
Amen.
Alors, Matthieu, au chapitre 25 et au verset 14, je vais lire du verset 14 jusqu'au verset 30. Alors, car c'est un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Et à l'un il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon sa propre capacité. Et aussitôt il s'en alla hors du pays. Or celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et acquit 5 autres talents. De même aussi, celui qui avait reçu les 2 en gagna lui aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla et creusa dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses esclaves vient et règle le compte avec eux. Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant, « Maître, tu m'as remis 5 talents, voici, j'ai gagné 5 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Entre dans la joie de ton maître. On en a parlé un petit peu ce matin. Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, maître, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'ai gagné 2 autres par-dessus. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu 1 talent vint aussi et dit, maître, je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et recueillant où tu n'as pas répandu. Et craignant, je m'en suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. Et son maître répondant lui dit, méchant et paresseux esclave, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et quand je serais venu, j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à chacun à qui il sera donné, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, cela même aussi qu'il a, lui sera ôté. Et jetez l'esclave inutile dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Voilà, alors pourquoi j'ai choisi ce passage ? D'abord, j'aime beaucoup les paraboles, et je pense que je ne suis pas le seul, parce que les paraboles, c'est un mode de communication qui est intéressant, qui prend dans le quotidien ou dans la nature des éléments qui sont devant, finalement, nos yeux au jour le jour, et qui servent de messages, qui portent un message spirituel. Alors, on en trouve dans l'Ancien Testament, et puis on en trouve beaucoup dans la bouche de notre Seigneur. En particulier de Matthieu 13. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que, bon, on peut faire un parallèle avec les fables de La Fontaine, où là on a une dimension morale et là on est plutôt dans la parole de Dieu sur la portée spirituelle, mais elle nous incite à essayer de comprendre le message. Quel est le parallèle que Dieu nous incite à relever de cette parabole ? Alors, le Seigneur a été explicite sur certaines explications de paraboles. La parabole du semeur, il leur donne les clés d'interprétation, mais dans beaucoup de cas, c'est à nous, par le discernement spirituel par l'esprit qui nous a donné, de comprendre, de chercher à comprendre. Et en même temps, moi je suis toujours étonné de voir qu'on découvre toujours des petits détails, puis on les lit, ces paraboles, on a l'impression de les connaître, et puis finalement, il y a des petits détails qui nous interpellent, et c'est ça la vivante parole de Dieu qui est extraordinaire. Alors, des paraboles, on va en trouver beaucoup sur le royaume, la croissance, sur la valeur des choses. Et puis, on va en trouver aussi sur le retour du Seigneur, le temps du retour du Seigneur, et on est à peu près sur ce sujet ici. Alors, peut-être pour situer aussi, dans Matthieu, pour ceux qui... Ce qui est intéressant, c'est que Matthieu est assez bien structuré. Hein. On a dans Matthieu 5 discours du Seigneur, et puis autour de ces discours, on a des actes. Le Seigneur est le seul qui a été si équilibré, si parfait dans ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Parfaitement aligné entre les paroles et les actes, c'est notre modèle suprême. Et on voit effectivement, et c'est quand même assez remarquable, de voir comment Matthieu a structuré son évangile. Donc, juste pour situer les 5 discours, on a le sermon sur la montagne. Alors, on peut l'appeler la charte du royaume, hein, si on prend le thème de la royauté qui est très cher à Matthieu. La charte du royaume, premier discours. Le deuxième, ça va être l'expansion, l'annonce du royaume par les disciples, au chapitre 10. Au chapitre 13, on va rentrer dans cette phase où là, il y a beaucoup de paraboles. Et là, c'est l'expansion du royaume. Et le Seigneur en parle avec beaucoup d'illustrations sur cette croissance par les arbres, par beaucoup d'éléments, ou sur la valeur du royaume. Et puis, on va trouver au chapitre 18 un autre discours où apparaît la notion de l'Église du Seigneur. Et le dernier discours, c'est chapitre 24 et 25, c'est ce qu'on appelle le discours des temps de la fin. On peut l'appeler différemment, c'est l'accomplissement du royaume, puisque très bientôt, le royaume sera parfaitement révélé et nous serons avec le Seigneur. Et donc, c'est dans ce dernier discours que la parabole que nous avons lue s'inscrit. Alors, déjà, petite remarque, on commence une parabole par le car, au verset 14, et donc on se doit quand même d'expliquer un petit peu comment les choses s'articulent. Très simplement, comment a été entamé ce discours c'est une discussion avec les disciples qui disent « Mais quand ces choses vont avoir lieu ?» Et donc, quand est-ce que tu vas revenir ? Seigneur. Et le Seigneur, donc, va leur donner des indications. Et alors, il va leur donner des indications vagues, parce que lui-même ne sait pas quand il va revenir. C'est Dieu seul. Il le dit lui-même. Je reviendrai, c'est une certitude, mais il y a une incertitude sur la date. Et donc, quelques paraboles, dont celle qui précède, ce qu'on appelle la parabole des vierges folles. On pourrait peut-être dire des demoiselles d'honneur aujourd'hui, qui s'endorment avant que l'époux n'arrive. Et donc, il y en a qui sont prêtes, il y en a qui ne sont pas prêtes. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que la question, c'est quand revient l'époux, et donc il y a une incertitude. Et là, on a ce quart qui articule finalement cette parabole dite des talents. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc le Seigneur dit je reviens bientôt, ça c'est la fin de la Bible, le bientôt à l'échelle du Seigneur, de Dieu, pour qui 1000 ans sont une pensée, c'est bientôt. Et pour nous, bien c'est long 2000 ans. Et là d'ailleurs il donne une indication, il dit longtemps après, il arriva longtemps après le retour du maître là. Je ne sais plus quel verset.
19.
Voilà, longtemps après. Ah, voilà. Tout se réconcilie, c'est long pour nous, mais c'est un temps court pour Dieu, il y a une certitude, le retour du Seigneur. Et le message, là, se déplace un peu. La focale de cette parabole, elle n'est plus tellement sur le quand, mais sur comment. Comment les serviteurs, comment nous, les croyants, on attend. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on fait ? C'est là le sujet de cette parabole. Alors, j'aime bien aussi les paraboles parce que, vous voyez qu'on l'appelle la parabole des talents. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, le talent culinaire, artistique, ce sont les capacités, les aptitudes particulières des uns des autres, les talents, les recherches de talents dans les entreprises. Et alors, curieusement, dans cette parabole, d'où est issu le terme ? D'où est issu le terme ? Le talent, c'est une unité de valeur, en quelque sorte. Une unité de grande valeur. Et voilà, on est donc... Là aussi, il y a des belles résonances dans la signification des choses. Le talent, mes aptitudes, nos aptitudes, vos aptitudes, c'est une valeur en soi. Et cette valeur, il faut la faire fructifier. Et ça va être le sujet de cette parabole. Donc... des paraboles qui sont riches en sens. Alors, il y a des pendants, si on cherche l'équivalent de cette parabole dans d'autres évangiles, on va trouver la parabole des mines, dans Luc 19. Alors, mine, là aussi, c'est une unité de valeur, c'est une richesse. Soyons bien conscients que ce qui est donné par le maître, donc le maître, on comprend assez vite, qu'il s'agit du Seigneur ou de Dieu, du Seigneur en l'occurrence qui va revenir, et des serviteurs, ceux qui sont dans ce royaume, qui vont faire prospérer ou non le royaume de Dieu. Et donc cette unité de talent, elle est c'est une unité de richesse importante. Hein, ça équivalait à certains disent 15, 20 ans de salaire. Et donc le maître donne beaucoup. À chacun, à celui qui en a 5, 2 ou 1, premier message, le Seigneur donne beaucoup. Quand on sera dans la parabole des mines, on a un autre petit, on a une petite différence. Hein, le maître va donner équitablement une mine à chacun. Alors après, on va commencer à se poser des questions, mais simplement, quand il y a une équité qui est donnée, on peut se dire que c'est peut-être plus ce que le Seigneur nous donne mais à disposition intrinsèquement de chacun des hommes, c'est-à-dire le salut, l'entrée dans le royaume de Dieu, qui est accessible à chacun. Alors voilà, donc dans cette parabole des talents, on va avoir la conversation du maître avec trois esclaves. On voit bien que le projecteur n'est pas tellement sur les esclaves. Eux-mêmes, ils n'ont pas de prénom, ils ne sont pas identifiés spécifiquement, mais sur la manière dont les esclaves vont faire valoir le patrimoine du maître. C'est ça qui semble le regard principal. Alors déjà, ce qui n'est pas exactement dans le texte, mais je pense ce qui est important pour nous de nous souvenir, c'est que quand Dieu nous confie quelque chose, et on est tous d'accord que Dieu nous confie à tous un don, une responsabilité, eh bien c'est un honneur. C'est un sujet de reconnaissance en soi. C'est-à-dire qu'on s'imagine bien, hein, c'est pas dans le texte, mais c'est toi qui se vois attribuer une partie du patrimoine du royaume, une part du royaume de ce maître, eh bien, premier réflexe, ça peut être de se dire, eh bien, merci, quel honneur que tu me fais, ô Seigneur, ô Dieu. Je pense que Paul est une belle illustration de cela. Quand il signe le début de ses lettres, Paul, esclave de Jésus-Christ, il est honoré d'être au service. Et je pense qu'on doit s'encourager à être... En reconnaissance d'être au service du Seigneur, quel que soit notre service. Le deuxième petit point que je voulais mentionner, ce sera des petites remarques, hein, mais au verset 15, à chacun selon sa propre capacité. On a un Dieu qui est bienveillant parce qu'il est bon et il est généreux puisqu'il attribue à chacun des responsabilités, des dons, mais il ne va pas trop charger l'un au détriment de l'autre. Donc, en fait, il connaît ses serviteurs, il connaît les capacités de chacun et de chacune, et il va éviter un burn-out d'un côté ou l'oisiveté de l'autre. Le Seigneur nous connaît, et dans ce qu'il nous demande, il le fait selon nos capacités. Et ça, c'est vraiment beau. Ça dit aussi les égards du Seigneur pour nous. Alors, on ne va pas parler des dons que Dieu nous a confiés ou les uns les autres, mais on peut être certain que nous en avons tous, je l'ai déjà dit. Quand on cherche un petit peu déjà nos attributions de responsabilité élémentaires, je dirais, eh bien, c'est déjà la représentation que nous avons. Ces trois esclaves, ils sont les représentations à l'absence du maître de ce royaume. Des ambassadeurs, on connaît le terme qui est repris dans une épître. Et donc, quand on est représentant ambassadeur, eh bien, on porte le nom, l'étendard. Alors, on a des beaux exemples dans la Bible. La petite fille qui est prisonnière dans la maison de Naaman, qui est pourtant loin de chez elle, eh bien, elle va rendre un magnifique témoignage qui va être en levier de salut pour Naaman, qui va être restauré dans sa santé. Et puis, je pense aussi à ce verset de Michée 6, qui est pour notre engagement quotidien, nos attributions de responsabilité et de dons quotidiens. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est quoi ? Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce sont déjà nos dons que nous pouvons mettre, les dons que nous pouvons mettre en musique dans notre quotidien. Voilà, et puis de se dire, bien voilà, c'est magnifique parce que à chacun est attribué, à chacun, chacune, est attribué un don, donc une responsabilité. Et donc il n'y a pas de sujet de chômage dans l'Église du Seigneur. Nous sommes tous en action. Dans l'Église, et là c'est dans le royaume de Dieu, hein, donc il faudrait un petit peu moduler, mais voilà, le Seigneur nous appelle tous à le servir. Alors, capacité, et puis je voudrais parler un petit peu de l'engagement, hein, parce que le sujet finalement, plus on avance dans cette parabole, plus on voit que la préoccupation, le message du Seigneur, c'est sur le fait de porter du fruit dans sa vie, de faire fructifier. Hein, c'est pas de rapporter 2 ou 5 quand on a eu 2 ou 5, mais c'est de ne pas rapporter quand on a eu 1. Et c'est ça qui est la préoccupation principale. Alors bien sûr, on se souvient que le Seigneur, avant, a... Alors cette fois, on trouve ça plutôt dans l'évangile de Jean, avec l'image du serment, de porter du fruit. Il faut porter du fruit, c'est bien la préoccupation. L'invitation du Seigneur pour ses disciples. Porter du fruit, porter beaucoup de fruits, porter plus de fruits. On trouve ces versets dans Jean 15. Et un petit avertissement dans Tite, je crois, ne pas être sans fruits. La préoccupation du Seigneur, ce n'est pas combien on rapporte de fruits, mais c'est d'être bien engagé pour lui. De s'engager pour lui et donc de faire fructifier ce qu'il nous confie. Les dons, ils sont attribués par Dieu selon nos capacités physiques mais aussi spirituelles. Ils sont attribués par l'Esprit. On le voit bien ça dans le cadre de l'Église. D'accord ? Mais après, eh bien, comment nous, on se met en marche, en quelque sorte, sous la dépendance de l'Esprit. Alors, sur l'engagement, On voit bien qu'on est dans un pays et dans un monde où on s'engage de moins en moins. Et c'est vrai que on peut être incité à rester souvent en retrait dans la vie collective aussi. La crise de l'engagement, on la voit partout. Regardez les statistiques sur le mariage, sur la durée du mariage, par exemple. Mais pas seulement. On voit bien que la société nous incite, un petit peu comme ce dernier serviteur, à sécuriser énormément de choses dans notre vie, à vivre... c'est un peu l'effet Bibendum de Michelin, cette petite mascotte qui se surprotège en permanence et qui se croit finalement à l'abri de beaucoup de choses, dans beaucoup de dimensions de notre vie. Et de fait, un petit Covid renverse et montre la fragilité du monde et de chacun d'entre nous. Et donc, cette crise de l'engagement, elle existait déjà là. Ce dernier esclave qui se donne l'illusion de la sécurité en enfouissant son talent. Et de fait, on voit bien que c'est le contre-exemple. Cet esclave, qu'est-ce qu'il a ? Il a peur, déjà. J'ai eu peur. Ah, voilà. La peur, c'est quand même pas le bon indicateur dans la Bible. Ceux qui ont peur, c'est Ève et Adam quand ils ont péché, c'est Pierre quand il doute, quand il marche sur la mer. Et donc, c'est le fait qu'on n'est plus dans la relation au maître. On n'est plus dans la relation au maître. Et donc, il faut vraiment, et je crois qu'on a tous, et quels que soient nos âges, ce besoin de ne pas être se croire dans une sécurité, une fausse sécurité. On est au service du maître, il nous a confié des talents, une responsabilité à nous de la faire prospérer. Alors, oui, on peut remarquer aussi que ce dernier serviteur, il parle de « voilà ton talent », alors que le maître, au départ, lui a donné. Donc, il n'a rien compris à ce qui lui était confié. Et on peut passer nos vies à être dans la compréhension. Alors, voilà, que nous ne soyons pas dans comme cette... finalement, quand on ne prend pas de risques dans la vie, quand on ne s'engage pas dans la vie avec le Seigneur, quand on ne prend pas de risques, eh bien, on rate sa vie. On rate sa vie. Et le Seigneur, ici, nous dit que la vie avec lui, c'est un engagement, c'est assumer une responsabilité d'engagement. Un petit message aussi sur notre propension à toujours regarder à côté. Parce que, quand on voit ça, on se dit, alors, on commence à sortir nos petits raisonnements en disant c'est formidable, on voit deux esclaves qui font vraiment prospérer le bien du maître. Le dernier, non. On va regarder la parabole des mines et puis on se dit il y en a un qui fait x10, l'autre x5 et l'autre à nouveau 0. Alors il y a des similarités, mais il y a des différences. Et puis alors on est un petit peu perturbé quand. Le talent est réattribué à celui qui en a 5 ou la mine est réattribuée à celui qui en a 10. On dit, mais c'est pas complètement juste ça. Ça perturbe un peu notre notion de justice. Alors, on peut s'apercevoir déjà que la notion de justice, elle est toujours exogène à nous-mêmes. L'injustice, on la voit plutôt chez les autres, curieusement. Ça, c'est la première chose. Et puis alors, on peut tourner ces pages parce que dans la Bible... Comme l'a dit Joël il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de paraboles sur l'argent, sur les richesses, etc. Et alors on va, par exemple, dans Luc 15. Luc 15, ce sont les paraboles, cette fois, sur la joie du ciel pour le salut des uns des autres. Alors au départ, c'est un mouton, une brebis qui est sauvée sur 100. Ensuite, c'est... Une pièce qui est perdue et retrouvée sur 10. Et puis après, c'est un fils qui est retrouvé sur 2. Alors on se dit, on ne comprend pas, il y a toujours cette même joie. Notre mentalité, elle aurait du mal, elle verrait les choses différemment. Et puis alors, on est encore plus perturbé si on va en Matthieu 20. C'est les ouvriers de la 11e heure. Alors là, c'est complètement inacceptable d'un point de vue syndicat français. C'est-à-dire que celui qui travaille une heure, il est rémunéré comme celui qui a travaillé 12 heures. C'est vraiment intolérable pour nous. Et alors, ce que dit le maître à la fin, c'est là qu'est la clé. Effectivement, tout est injuste. Si on regarde enfin à nous-mêmes, parce que tout ce que Dieu nous a donné, c'est juste injuste, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Le don, les dons que Dieu vous donne, que Dieu me donne, sont une grâce de Dieu. Le salut que Dieu nous donne est une grâce de Dieu. Tout est grâce de la part de Dieu. Et donc oui, c'est inacceptable parce que tout est grâce. Et ce maître de la parabole des ouvriers de la 11e heure, il va dire à celui qui est rouspète, il va dire, mais tu vas m'empêcher d'être bon. Dieu est bon. La grâce de Dieu est immense. Et alors, nous, on est toujours dans une compta. Le donnant-donnant, on fait notre petit tableur Excel, hein, implicitement dans nos cœurs, existe un territoire où on tient une compta devant Dieu, parce que je fais ci, parce que je fais ça. Mais tout est grâce, y compris ce salut, y compris ce don de Dieu qui est cette responsabilité qui nous est donnée. Alors sur la responsabilité, effectivement, ça nous amène à se dire que il y a des différences. Oui, il y a des différences. 1, 2, 5. Mais cette différence, elle se revendique donc pas comme un droit, mais comme un devoir, comme un engagement de responsabilité. Et là, on est complètement à l'envers du monde, parce que dans notre monde, la différence, elle se montre comme elle se manifeste dans la rue, et tout est droit. Finalement, in fine, on a tous... Enfin, il y a une espèce de laminoir de la pensée unique, et finalement, tout se ressemble dans ce monde. Mais de fait... on ne veut voir qu'une seule tête d'une certaine manière, hein, avec une pensée unique malgré les différences, dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des diversités et chaque différence s'assume comme une responsabilité, un engagement devant le Seigneur et devant les autres. Et donc, tout cela est parfaitement harmonieux. Et du coup, la différence, c'est... Un, c'est une richesse pour l'Église, pour le royaume de Dieu, ici. La différence, c'est aussi un bonheur, parce que c'est un apport des uns versus les autres, c'est une complémentarité. Et alors, on peut penser aussi à la fin de l'évangile de Jean, quand on est toujours un petit peu à regarder à côté, « Que t'importe, toi, suis-moi. » Assumons ce que Dieu nous donne. Et assumons-le devant le Seigneur et avec les autres. Donc ça, c'est pour la responsabilité. Et puis alors, je termine parce que, in fine, entre dans la joie de ton maître. J'ai bien aimé, dans notre culte, l'espérance, elle nous porte. Elle nous donne de passer les moments sombres. Et on en a des moments sombres, et certains plus que d'autres. Mais... finalement, l'expression « le bout du tunnel », je ne sais pas si c'est vraiment complet pour le chrétien, parce que la lumière du Seigneur, elle est aussi dans le tunnel à nos côtés, même s'il y a une perspective d'éternité, même s'il y a une perspective de lumière, des horizons dégagés, que nous a préparé le Seigneur. Mais j'aime bien cette fin d'histoire. Entre dans la joie de ton maître. C'est bizarre comme cadeau. Mais en fait, c'est le meilleur, là encore. Parce que c'est la relation. C'est la relation qui prévaut. C'est la relation avec le maître. En fait, hein, ceux qui ont fait prospérer le patrimoine du maître, ce sont ceux qui ont été portés par l'espérance. Ce sont ceux qui la différence aussi entre la parabole et nous, c'est qu'on a... Cet acquis extraordinaire, c'est que le Seigneur et l'Esprit-Saint sont avec nous. On n'est pas avec un maître absent complètement. Hein, chaque parabole donne une illustration et a aussi des limites par rapport à ce qu'elle veut dire. Mais pour nous, on a ce don extraordinaire de l'Esprit-Saint. On a la présence du Seigneur qui nous porte aussi vers cette espérance où on sera effectivement avec lui. Donc on entrera dans la joie parce que c'est la relation qui a porté les deux premiers esclaves. C'est cette motivation d'espérance. C'est ce qu'il y a devant. On sait que le meilleur est devant pour le chrétien. Mais ça alimente aussi le présent pour le chrétien. Et donc, je trouve que finalement, le message aussi de ces talents, c'est que la richesse, c'est la relation avec le maître, c'est de savoir qui est notre maître, de savoir comment il est, hein, et puis c'est de être dans un engagement, dans un engagement durable, de manière responsable, avec notre sauveur. Donc cette parabole des talents, je trouve, elle est magnifique parce qu'elle est très encourageante. Elle nous incite à reconnaître avec remerciement que le Seigneur nous appelle à son service. C'est un honneur. Deuxièmement, nous ne sommes pas... Personne n'est oisif et nous sommes tous appelés à le servir. Troisièmement, on a des différences de service, mais cette différence, c'est à nous de l'assumer de manière responsable devant le Seigneur et devant les autres. Et puis, tous ensemble, on peut en référer en permanence à notre maître, qui est là 7-7-24-24, hein, pas absent. Et donc, on a vraiment toutes les raisons d'avancer, de porter du fruit pour lui et en perspective de rentrer dans cette joie de la rencontre finale.